Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de recevoir ce soir un président et un parrain. Le président, c'est Frédéric Zanga qui a créé le festival Mifa Saulnois et le parrain, c'est le violoncelliste Raphaël Jouan. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Alors Frédéric, ce festival, il va avoir lieu donc courant septembre et il présente l'originalité de mélanger un peu différents univers musicaux. C'était votre idée de départ, je crois.
Oui, complètement. Pour moi, la musique n'a pas de frontières. Elle doit être très large et pour tous les publics et pour toutes les expressions. Et cette année encore, nous avons la chance effectivement de pouvoir coller à cette image et de présenter beaucoup de concerts différents dans des expressions différentes, grâce notamment à notre parrain Raphaël Jouan qui a fait la programmation complètement. On y reviendra. Et donc on va avoir la chance d'être autour du violoncelle cette année au niveau de notre thème. Donc on donne la part absolue à cet instrument merveilleux qui est très proche de la voix et que beaucoup de gens apprécient et admirent, le violoncelle. Et on commencera donc le 21 septembre à Vic-sur-Seille, non le 20 septembre, pardon, à Vic-sur-Seille avec le quatuor Modigliani et Raphaël Jouan.
Très bien. Bah, Raphaël Jouan, justement, vous évoluez également dans différents univers musicaux, mais c'est le classique qui tient un peu le haut du panier, on va dire.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment une formation de violoncelliste classique, mais après, je rejoins totalement Frédéric sur ce côté que la musique n'a pas de frontières et qu'il y a tous ces styles à explorer que j'ai essayé d'explorer très modestement à mon échelle, au long de mon parcours, un peu de baroque, un peu de musique du monde, des musiques improvisées. Et je trouve que tout ça, ça se nourrit les uns avec les autres et c'est très très important.
Eh ben on va peut-être commencer par vous écouter dans le final de la sonate pour piano et violoncelle de Claude Debussy.
Thank you.
C'était le final de la sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy dans l'interprétation de Raphaël jouant au violoncelle et Flore Merlin au piano. Alors Raphaël, parlez-nous un peu de cet enregistrement.
Alors c'est mon et notre tout premier disque, donc vraiment une affection particulière pour moi, qu'on a enregistré en 2019, ça commence à faire un petit moment, et on a enregistré ça au CNSM, donc Conservatoire Supérieur de Paris, grâce à qui on a pu avoir la chance d'avoir un piano historique, parce que ce qui n'est pas facile à avoir, parce que donc, la Flore joue sur un piano Erard de 1903, qui appartient au conservatoire, qui a été donné au conservatoire, et pour la petite anecdote, sur lequel Debussy lui-même a donné des cours. Donc nous, on a enregistré la sonate dessus, c'était quand même, on se sentait tout petit.
Alors ce CD, c'est le premier, il y a des œuvres connues, il y a des choses moins connues aussi?
Oui, ça fait aussi partie de quelque chose qui me tient à cœur, c'est de diversifier aussi les répertoires finalement, et ça sur tous les enregistrements que j'ai pu faire avec les différents groupes, on a à chaque fois mis des vrais chefs-d'œuvre reconnus comme cette sonate de Debussy, et on a toujours voulu faire découvrir des pièces, et donc par exemple il y a une très très belle sonate de Louis Vierne qui est un compositeur français que les organistes connaissent très bien, qui a aussi écrit un quintet par exemple avec piano qui est sublime, et cette sonate qu'on avait découverte qui est un peu plus presque germanique par moment dans l'approche du son romantique, mais qui date vraiment de la même période que les sonates de Debussy et de Fauré qui sont sur l'album, et des pièces de Nadia Boulanger aussi. Donc
oui,
c'est
vous
vraiment...
avez été un des premiers à les enregistrer.
Je pense en tout cas, j'ai peut-être je pense que j'avais pas beaucoup entendu de version avant, en effet, mais ça m'a beaucoup plu, et donc il y avait ces connexions entre tous ces compositeurs qui faisaient que dans une période très courte de à peine une quinzaine d'années, on entendait tous ces paysages musicaux différents dans le même pays. Donc c'est fascinant, au début du 20e, tout ce qui se passe.
Et puis en complément, il y avait des pièces, des sonates de Fauré, enfin la deuxième sonate, et puis la sérénade piano-violoncelle.
Oui, la musique de Fauré qui est absolument sublime, et qu'on redécouvre un peu plus cette année, puisque donc 2024, c'est le centenaire de sa disparition. Donc moi, j'ai un gros projet Fauré, là, par exemple, à l'automne, avec beaucoup de sa musique de chambre que j'apprécie énormément.
Alors on va peut-être revenir sur votre parcours qui a débuté au conservatoire de Metz.
Oui, je suis vraiment un enfant de la région, là, 100%. Et donc j'ai débuté avec un professeur qui enseigne toujours là-bas, qui s'appelle Jean Adolphe, que j'adore, et qui m'a donc fait débuter le violoncelle vers 5-6 ans, je pense, et qui m'a accompagné jusqu'à ce qu'on a la médaille, on va dire, où j'avais 15-16 ans. Ensuite, je suis allé à Paris travailler à Boulogne-Billancourt chez son ancien professeur, qui s'appelle Xavier Gagnepain. Et donc j'ai vraiment eu cette filiation directe. Oui. Et ensuite, je suis rentré au Conservatoire supérieur de Paris avec un professeur qui s'appelle Michel Strauss. Et donc ça c'est tout le cursus avec licence master. Et ensuite, j'ai fait quelques cycles de perfectionnement à droite à gauche dans la classe de Gauthier Capuçon qu'il avait à l'époque à la Fondation Vuitton. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Bâle et à Berlin avec un professeur qui s'appelle Ishizaka. Voilà, vous savez tout.
On apprend vraiment plein de choses ici. Tous ces univers que vous fréquentez, ça demande des techniques particulières par rapport à l'instrument ou...
C'est vrai que, évidemment, si on va parler par exemple du baroque, alors moi je ne suis pas quelqu'un qui veut jouer sur des cordes en boyau, très rarement, mais en fait le fait d'avoir approché ça, ça nous fait avoir une technique d'archer par exemple qui est différente, même une technique de vibrato qui est différente, parce que ça va nous amener, comment dire, des palettes sonores différentes. Le fait d'avoir fait un peu de musique du monde, le fait d'avoir fait un peu de jazz, ça fait développer pour moi des techniques de pids, donc les cordes pincées par exemple, pour essayer de se rapprocher de la guitare ou de la contrebasse. Et donc toute cette exploration-là, ça permet, je trouve, d'élargir un petit peu le spectre de couleurs à l'instrument.
Et alors, tous ces répertoires, vous les jouez avec le même instrument ?
Et oui, c'est ça le challenge.
Et c'est un instrument tout récent, en fait. Hein ?
Oui, tout à fait. J'ai commandé cet instrument donc à un luthier qui s'appelle Franck Ravatin, qui est breton, lui, pour le coup.
Ah ben, c'est rare, un luthier breton.
Oui. Mais je suis pas sûr qu'il soit breton d'origine, mais maintenant, il est installé à côté de Vannes depuis longtemps.
Ah, d'accord.
Et donc, il est assez renommé pour les violoncelles. J'en ai essayé peut-être une dizaine au moins, et j'ai vraiment adoré sa patte, on va dire, parce qu'il y a vraiment une patte de sonore dans ces instruments. Et donc, je lui ai passé cette commande. Alors, le violoncelle que vous avez entendu juste avant dans la sonate de Debussy était déjà un violoncelle de Franck Ravatin qu'on me prêtait à l'époque, mais c'est pas celui que je lui avais commandé, que j'ai eu, je pense, un an plus tard, et donc que je joue toujours maintenant. Voilà. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on a un violoncelle bébé, clairement, et donc on arrive avec le son un peu comme un bois vert, et on va le faire... s'ouvrir, et donc on va vraiment mettre notre patte de musicien dans l'instrument et créer, un peu modeler le son. C'est un travail d'équipe qui est passionnant à faire.
Et vous envisagez de le garder toute votre carrière ?
Oui, bah après, il m'arrive d'explorer aussi des instruments anciens, comme des Italiens ou autres, parce que ça permet aussi d'explorer d'autres, je parlais de spectre sonore, ça permet d'explorer d'autres dimensions du son, de creuser aussi différemment, et donc c'est quelque chose qui m'intéresserait de pouvoir de temps en temps aussi varier certains instruments pour varier les couleurs, mais en soi, ce violoncelle-là, c'est sûr que je vais le garder toute ma vie, bien sûr, ouais.
Alors, à côté de votre parcours en soliste, vous faites beaucoup de musique de chambre ?
Bah, je pense que je suis même avant tout un chambriste. Disons que c'est comme ça que j'aime faire la musique, c'est ouais. Le partage. Et donc, la musique de chambre a eu une grande part assez tôt dans mon parcours. Et donc, il y a le trio Helios, par exemple, avec violon et piano, que j'ai formé en 2014, donc qui fête ses 10 ans déjà cette année. Donc, relativement tôt dans mes études, finalement. Et c'est un domaine qui est sans fin déjà, et dans lequel je m'épanouis énormément, dans lequel on va chacun s'apporter des choses, et il y a à la fois le côté solistique, puisqu'il faut pouvoir on peut exprimer sa vraie personnalité, et puis à la fois il y a l'union, le groupe, la puissance commune, et donc pour moi c'est la quintessence de la musique en tant qu'interprète, c'est la musique de chambre pour moi, c'est très subjectif.
Helios, ça vient d'où ce nom?
Bah, Helios, c'est donc le dieu du soleil.
Oui.
Voilà, et donc c'était. On a cherché pendant longtemps. C'est pas facile de trouver un nom. C'est pas facile parce que déjà, il y en a plein qui sont pris, attention. Oui. Ensuite, il y en a plein qui sont beaucoup trop longs, ça va pas marcher du tout. Il faut en trouver un qui marche dans toutes les langues. Oui. Il y a beaucoup de petits paramètres comme ça, terre à terre. Mais ensuite, c'était le côté poétique, je pense, de la lumière un peu que ça dégageait, ce nom-là. On pense au dieu du soleil, c'est aussi associé à Apollon, dieu des arts. Il y avait ce côté de mettre en lumière, si on veut, la musique sous différentes formes. Et en plus, il se trouve que je pense que je peux dire qu'on a plutôt des personnalités assez fraîches, dirons-nous. On n'est pas des gens très très sombres.
Ouais,
et
oui.
Donc ce côté ensoleillé, ça, il se trouve que ça nous correspondait pas mal. Et donc voilà, c'est parti là-dessus.
On va peut-être citer vos collègues du trio Helios.
Tout à fait. Donc au piano, on a Alexis Gournel et au violon, Eva Zavaro.
Eh ben, on vous écoute dans une pièce de Zdenek. Alors, je ne voulais pas être familier, mais Zdenek, c'est que son prénom, son nom de famille, c'est Fibich. Zdeněk Fibich, Am Abend, par le trio Helios. Alors, on va revenir sur votre violoncelle, Raphaël Jouan. Vous nous parliez hors antenne des catastrophes qui peuvent arriver aux luthiers.
Exactement, puisque en fait, Frédéric m'a posé la question, est-ce que les violoncelles sont souvent faits dans le même type de bois ? Et donc, bon, je ne suis pas assez pointu en lutherie pour pouvoir affirmer à 100%, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont faits dans les mêmes types de bois. Et donc, je disais que le mien, par exemple, a une table qui est en épicéa, et que cette épicéa vient d'Italie, vient de la vallée qui s'appelle la vallée di Fiemme, et que c'était une vallée où les grands luthiers italiens, d'il y a quelques siècles, allaient déjà prendre leur bois, en fait, les Stradivarius et autres. Donc, et qu'au niveau catastrophe, c'est vrai que je disais que cette forêt a eu un énorme incendie il y a quelques années, et qui a été dramatique dans le milieu de la lutherie, puisque donc, ces bois ont évidemment été perdus, et puis on ne pourra pas revoir ce type d'arbre avant des siècles.
Eh oui, c'est triste.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Frédéric Zanga, parlons à présent de ce festival Mi Fa Sol Noa, dont la programmation artistique a été confiée à Raphaël Jouan, donc, qui est avec nous ce soir, et qui est donc le parrain de cette édition 2024. En 2023, c'était l'accordéon, si je me souviens bien.
Complètement, oui. Et Raphaël Jouan y est venu avec Bruno Maurice. Et c'est là qu'on a parlé de l'édition 2024. Et donc, je lui ai demandé s'il voulait être notre parrain. Il a accepté avec grand bonheur. Et on a tout de suite fait une réunion de travail début octobre pour voir ensemble la programmation. Mmh. Et c'est Raphaël, notre parrain, qui s'est beaucoup investi sur cette édition, qui a beaucoup participé, qui a beaucoup donné d'énergie, qui nous a proposé une programmation vraiment magnifique, qui allait complètement dans le sens de nos valeurs, de nos attentes. Et j'invite les gens à venir découvrir le programme sur notre site ou sur Facebook. Et tout y est, donc les indications des ensembles qui vont s'y produire, les concerts, les places. Vous pouvez déjà réserver, bien sûr, les places sur le site ou à l'office directement. On a un festival vraiment magnifique.
Donc ça commence le 20 septembre.
Le 20 septembre, salle des Carmes. Ouais. Ouais. Salle des Carmes, Vic-sur-Seille, 20 septembre. Ensuite, le lendemain, Adieuze.
On va détailler tout ça.
On va détailler.
Mais oui. Donc le 20 septembre, ça ouvre avec le Quatuor Modigliani et Raphaël Jouan. Alors vous allez jouer quoi ?
Alors le Quatuor Modigliani, on est très très heureux et très honorés qu'ils aient accepté de venir ouvrir le festival, parce que c'est un des plus grands vraiment quatuors au niveau européen et même mondial. Moi c'est des gens que j'admire beaucoup. Et donc ils vont ouvrir avec un quatuor de Beethoven, un des opus 18, donc un des tout premiers quatuors de Beethoven. Et surtout le clou, on va dire, un petit peu de la soirée et ce à quoi j'avais réfléchi, c'est le quintet à deux violoncelles de Schubert, qui est une œuvre absolument incroyable. Et donc pour l'édition sur le violoncelle, avoir cette œuvre me semblait une belle manière d'ouvrir.
On va écouter le Quatuor Modigliani dans le final du Quatuor américain d'Antonin Dvorak. Thank you. C'était le final du quatuor américain de Dvorak dans l'interprétation du quatuor Modigliani. Alors Raphaël Jouan, expliquez-nous un petit peu la thématique de ce festival.
Alors donc, comme c'était tourné autour d'un instrument, le violoncelle, on a essayé de construire la programmation en montrant le violoncelle sous le plus de facettes différentes possibles. Et donc l'ouverture, c'est donc le violoncelle chambriste avec sans doute, comme je disais, l'œuvre, une des œuvres les plus iconiques pour le violoncelle chambriste, qui est donc ce quintette de violoncelle de Schubert. Le lendemain, on aura le violoncelle et la guitare, donc là où on approche un peu plus le violoncelle un peu jazz manouche. On aura ensuite le violoncelle associé à l'orgue, parce que pour la première fois on aura de l'orgue dans le festival aussi. Il y aura le violoncelle concertiste avec orchestre, il y a le violoncelle improvisateur, le violoncelle piano tout simplement, il y a l'origine du violoncelle avec Bruno Coxet, les basses réunies, qui, où c'est vraiment la naissance du violoncelle, on va dire. Il y a le violoncelle revisité avec Bleu Quintet, où il y a carrément des compositions originales presque punk et électro, et on a le violoncelle jazz. Donc je me suis beaucoup éclaté, je dois dire, si je puis dire, à imaginer ça, donc le violoncelle sous le plus de facettes différentes, avec des gens qui, des violoncellistes et pas que, qui me semblaient très intéressants et qui avaient à chaque fois des projets atypiques et qui pouvaient montrer cet instrument sous le plus de dehors possible.
Et vous, Frédéric Zanga, monsieur le président, vous êtes éclaté à organiser cette édition du festival ?
Oui, écoutez, c'est un peu particulier pour moi parce que d'habitude, je fais beaucoup de choses. Là, j'en fais beaucoup moins.
Il m'a fait l'honneur de déléguer un peu plus le côté artistique.
Mais c'est super parce c'est que, bien, en fait, Raphaël apporte beaucoup, oui, énormément. Je le remercie. Et bon, déjà sa fraîcheur, sa jeunesse, sa passion, et puis bon, bah, il nous a ouvert beaucoup de portes, hein, parce que forcément, on ne connaît pas tous les artistes, hein, quand on vient de créer un festival, il y a des liens qu'on n'a pas, il y a des coordonnées qu'on n'a pas, et donc grâce à lui, on va accueillir les Modigliani, donc à ne pas rater, salle des Carmes en plus, dans une très belle salle du Saulnois. Et d'ailleurs, je remercie Jérôme Hent qui nous accueille et qui nous soutient à travers la communauté de communes du Saulnois et à travers la mairie de Vic-sur-Seille, comme d'autres mairies du Saulnois. Cette année, on s'ouvre un peu plus sur l'extérieur. On a décidé de faire connaître le Saulnois et de faire connaître notre festival Mifa Saulnois un petit peu partout en Moselle. Donc, il y aura un concert à Metz. À l'église Saint-Maximin. Ouais. On quitte le Saulnois. Elle sera en plus avec Bruno Coxet et les basses réunies, donc un moment extraordinaire à ne pas manquer. Et lors de ce concert, la place sera gratuite pour les femmes, puisqu'on est dans le cadre de la journée d'Octobre Rose. Donc un concert à ne pas louper. Il y aura Saint-Avold avec le CAC, bien sûr. Alors ça va être un moment grandiose avec le symphonique de Thionville-Moselle. Donc et puis Raphaël Jouan en soliste dans un concerto extraordinaire, le concerto que tous les violoncellistes redoutent et espèrent jouer certainement.
Oui, adore
jouer concerto d'Elgar. Ouais.
Et oui. Et puis il y a d'autres endroits encore, mais on en parlera plus tard dans l'émission. Le 21 septembre à Dieuze, il y a un trio un petit peu original. Raphaël ?
Oui, tout à fait. Donc c'est le violoncelliste à l'honneur un peu pour cette soirée-là, c'est François Salk, que j'ai aussi beaucoup croisé dans mon parcours, qui a été d'ailleurs un peu un professeur aussi à une période, et qui est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup ouvert à différents types de musique et qui a entre autres créé ce projet qui s'appelle Lococello, avec basse et guitare, donc qui part vraiment vers le jazz manouche, donc il sera là avec ce projet-là. Et en deuxième partie, il vient avec un ami de longue date qui est un violoniste, Pierre Fouchonneret, vraiment magnifique, et Jérémy Jouve, un guitariste qui est un habitué, Frédéric le dira, du festival. Donc c'est vraiment la guitare qui a l'honneur cette fois-là dans son association avec le violoncelle.
Très bien. Eh bien, on va écouter un petit peu ce trio Lococello, enfin ce projet Lococello, Parmi le vent, de Mathias Duplessis. c'était Parmi le vent de Mathias Duplessis.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
Alors Frédéric Zanga, vous connaissez un petit peu la musique de Mathias Duplessis, vous pouvez nous parler de lui ?
Oui, Mathias Duplessis, on a eu la chance de l'avoir l'année dernière avec le trio Cavalcade, avec Jérémy Jouve et le joueur de tablas. Et donc c'est une musique particulière, il aime bien la musique du monde, il s'intéresse beaucoup à la musique traditionnelle, donc tous les pays, que ce soit en Inde, en Mongolie, la musique indienne. Et c'est vraiment ça qui lui donne envie de créer, de composer. Il joue une trentaine d'instruments, ouais. et surtout très très bien la guitare avec Jérémy Jouve. Ils s'entendent très très bien et il a des compositions vraiment extraordinaires.
Et donc ça sera, certes, deux de ses pièces seront au programme du concert du 21 septembre à Dieuze.
À Dieuze, oui. Ouais.
D'accord. Alors le 22, formation pas banale du tout. On commence à entendre un tout petit peu, mais c'est violoncelle associé à l'orgue.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert aussi cette formation-là parce que donc j'ai un collègue et ami, Thibaut Reznicek, qui joue avec une formidable organiste, Lucille Dola, qui est actuellement en résidence à Radio France. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient fait déjà pas mal de concerts ensemble. J'en ai discuté pas mal avec lui. Et c'était l'occasion, comme Frédéric a aussi créé ce festival pour mettre en valeur le Saulnois. Ce concert, c'était aussi l'occasion de mettre en valeur le patrimoine du Saulnois. Et en l'occurrence, du coup, un orgue vraiment du Saulnois. Par ailleurs, il y aura une première partie qui sera aussi un groupe du Saulnois, fantasy lyrique, avec des chanteurs de la région. Et donc, c'est vraiment le concert qui souhaite mettre tout ça en avant. Et donc, cette association, violoncelle et orgue, alors, je suis sûr que Thibaut, qui aime bien présenter, le présentera très bien au concert. Mais donc, et vous pourriez sans doute en parler également, c'est assez atypique quand même. Mais il y a des répertoires très intéressants. Et donc là, ils nous ont fait un programme sur mesure pour le festival qui, je suis sûr, sera une très belle découverte.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va écouter Thibaut Reznicek et puis vous, Raphaël Jouan, dans un duo de Jacques Offenbach. Thank you. C'était Thibaut Resnicek et Raphaël Jouan dans ce duo de Jacques Offenbach. Offenbach était, rappelons-le, un éminent violoncelliste, si je me souviens bien.
Ah oui, tout à fait. En fait, il est arrivé à Paris et il a donné des cours de violoncelle pour pouvoir déjà gagner un peu sa vie. Et ouais. Puis, il était violoncelliste à l'Opéra Comique. D'ailleurs, c'était lui-même un comique, paraît-il, qu'il s'amusait à scier, par exemple, les pupitres des collègues pour que ça tombe en répétition, à lier les lacets ensemble. Enfin, voilà. On entend ça dans sa musique. Hein. Et donc, d'ailleurs, Fantaisie Lyrique, comme je disais, qui est le groupe vocal qui fera la première partie, a fait un concert autour d'Offenbach. Donc, on a la connexion.
Voilà. Très bien, tout est pensé dans ce festival. Alors le 28 septembre, Raphaël, vous revenez et vous jouez à Thionville avec l'Orchestre Symphonique, un concerto.
À Saint-Avold avec l'Orchestre de Thionville. Concerto de Edward Elgar, et donc un des très grands concertos romantiques qui a fêté il n'y a pas très longtemps ses 100 ans, alors qu'on a pas mal redécouvert parce que c'était un peu le concerto emblématique de Jacqueline Dupré, grande violoncelliste britannique. Et donc c'est une vraie fresque musicale avec beaucoup de puissance, avec quatre mouvements qui vont presque s'enchaîner avec les thèmes qui vont revenir d'un mouvement à l'autre. Donc c'est vraiment une seule grande histoire avec de la virtuosité, avec du lyrisme. Enfin, j'ai très hâte de ce moment. Et donc on s'est déjà rencontré avec Salvatore Peri, qui est donc le chef de l'orchestre. On s'est vu il y a quelques semaines pour déjà commencer à échanger sur tout cela. Et donc je suis sûr que ça sera un très beau moment.
Vous l'avez déjà joué ?
Et non, ça sera ma première fois. Alors évidemment, je l'ai beaucoup joué et travaillé dans mes études.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais on n'a pas tous les jours un orchestre symphonique qui est disponible pour le faire avec nous. Et donc là, ça me semblait être à la fois un concerto assez iconique et à la fois peut-être pas le nom qui va le plus parler aux gens, Elgar, par rapport à Dvorak, peut-être, ou Schumann. Et donc ça permettait quand même, je pense, de faire découvrir aussi cette œuvre à un certain nombre de personnes. Mais on est sur de la musique tellement belle que je suis sûr qu'il n'y a pas d'âge pour y aller. De 5 ans, de 5 à 95 ans, n'hésitez pas.
D'autant plus que la deuxième partie du programme, c'est aussi quelque chose de...
Ah là, pour le coup, on a ce qu'on peut appeler un tube. Donc, on a entendu tout à l'heure le quatuor américain avec les Modigliani. Là, c'est sa fameuse symphonie du Nouveau Monde, donc qui date exactement de la même période. C'est la 9e symphonie de Dvorak, sans doute une des œuvres les plus connues du répertoire. Et à juste titre, avec quatre mouvements qui sont absolument sublimes, où il a associé sa science de l'orchestration incroyable avec des thèmes qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, ça, c'est toujours une symphonie. On a beau l'avoir entendu, on a l'impression d'avoir tous les thèmes dans l'oreille. À chaque fois qu'on la réentend, on est heureux.
Voilà, tout à fait. Le dimanche, c'est le dimanche de 29, oui, ça doit être le
c'est
dimanche.
Ça.
Oui, dimanche 29 à Marsal. Alors, c'est la violoncelliste Cyrielle Golin que vous avez invitée.
Oui, mais Cyrielle, on se connaît depuis très longtemps, puisque donc, elle est également messine.
Oui.
Et on a été tous les deux chez Jean Adolphe, elle 2-3 ans avant moi, je pense. Ensuite, on a eu des parcours un petit peu différents, où elle allait beaucoup étudier en Allemagne, mais c'est également une chambriste accomplie depuis très longtemps, qui est au sein d'un superbe quatuor à cordes. Je pense que vous en avez peut-être parlé ici.
Oui, elle est venue me rendre visite dans une émission il y a quelques mois.
Ah, et donc, voilà, j'étais très heureux, on était très heureux avec Frédéric de pouvoir lui proposer une carte blanche pour cette journée-là, qui permettait de mettre à la fois une super violoncelliste en valeur et à la fois une violoncelliste de la région, tout comme moi, ce qui nous tenait à cœur. Et donc, elle vient avec une pianiste avec qui elle a commencé à créer une collaboration étroite depuis quelque temps, Jodiline Galavardin. Et donc, elles nous ont concocté un programme qu'elles ont intitulé Contes et rêves autour du violoncelle et piano, donc avec des pièces très connues comme la sonate de Chopin, par exemple, mais à la fois des vraies découvertes, comme par exemple, il y a une pièce qui s'appelle Poatka de Janáček. Donc, Janáček est un superbe compositeur qu'on ne connaît pas toujours, et cette pièce, c'est un conte musical, en fait. Il y a vraiment une thématique, avec une histoire, avec une princesse, un voleur, et en fait, une petite pièce d'une douzaine de minutes, très très colorée, très imagée, et donc c'est vraiment une conte et rêve pour violoncelle, ça fait un programme très original.
Alors je voudrais qu'on écoute Jodiline Galavardin, parce que c'est un nom qu'on commence à entendre un petit peu... Qui est une star montante du piano, qui a été prix de la révélation musicale de l'année du syndicat de la critique.
Ah oui, tout à fait. Et là, elle sera même dans des grands festivals cet été, comme à la Roque d'Anteron, par exemple. Ouais. J'ai vu qu'elle y jouait en août.
Ouais. Elle est soutenue par de nombreuses fondations, Fondation Safran, Fondation Société Générale et Fondation de la Banque Populaire, par exemple. Donc on écoute Jodiline Galavardin. C'était Jodiline Galavarda dans cette fougueuse interprétation de l'étude pour piano numéro 6 opus 111 de Camille Saint-Saëns, sous-titrée Toccata. Alors, Jodiline accompagnera Cyriel Golin dans le cadre de ce festival Mi Fa Sol Noir dont on parle ce soir. Alors, le dernier week-end de ce festival s'ouvre avec un concert de Bruno Coxet et de son ensemble Les Basses Réunies. Alors, c'est où et c'est quoi comme programme ?
Alors, c'est le premier concert hors les murs jusque là-bas, puisqu'on ira à Metz, à l'église Saint-Maximin, qui a une acoustique formidable, une magnifique église avec des vitraux de Jean Cocteau, très beau. Voilà. C'est une belle découverte, cette église. Et donc, ça, c'était une des premières idées que j'ai eues en tête pour cette édition autour du violoncelle, c'était de pouvoir avoir un concert sur les origines du violoncelle. Mmh. Donc, Bruno Coxet, c'est un violoncelliste baroque que je connais depuis longtemps et que j'admire depuis très très longtemps. J'ai écouté énormément de ses disques, il m'a beaucoup inspiré et il y a toujours des projets qui sont très réfléchis avec cet ensemble qu'il a créé, donc les Basses Réunies. J'en ai parlé avec lui et il m'a dit justement là au printemps sort un disque La naissance du violoncelle, donc c'est vraiment sur les origines à la fois en Italie et en Espagne, donc c'était un timing parfait. Un très très beau disque qui est sorti là pour Alpha Classique et qui a déjà eu beaucoup de récompenses, et donc il viendra avec ce projet là le 4 octobre, où il y aura donc lui-même qui a toujours pas mal de violoncelles différents, parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail avec un luthier qui s'appelle Charles Richer. Il a fait un travail très très collaboratif, très étroit, où ils se sont penchés sur vraiment l'organologie, la lutherie, et parfois il y a des instruments qui varient à la décennie près par rapport à l'œuvre qui va être jouée. Donc ils ont vraiment creusé ça, et c'est toujours très très intéressant de le voir en concert, parce que il va en parler. D'ailleurs, c'était aussi une de nos idées, c'est qu'il y aura une petite introduction au concert avec un luthier que peut-être les gens de la région connaissent bien, qui s'appelle Alain Meyer.
Oui, bien sûr. Oui.
Et ils sont assez amis tous les deux d'ailleurs. Et donc Meyer et Coxet feront ensemble une petite introduction sur vraiment les origines aussi de l'instrument en lui-même. Et ensuite, il y aura ce concert superbe où il y a une basse continue, une contrebasse et un clavecin. Et donc, sous la voûte de Saint-Maximin, ça devrait être assez magique.
Eh bien, on va écouter Bruno Coxet et ses basses réunies dans une pièce de Jean-Baptiste Barrière.
Thank you.
C'était Bruno Coxet et ses basses réunies dans une pièce de Jean-Baptiste Barrière, un andante d'une sonate pour violoncelle en sol majeur. Alors Raphaël Jean, il y a aussi une dimension pédagogique à ce festival Mi Fa Sol Noi.
Oui, on a vraiment voulu impliquer aussi les conservatoires. Et donc, déjà, la première chose, c'est que tous les concerts sont gratuits pour les élèves de conservatoire. Oui. Et donc, on en a parlé beaucoup au conservatoire de Metz et de Nancy en particulier, qui vont organiser aussi des transferts, organiser des voyages pour les élèves. Et il y a des masterclass de mise en place. Donc Bruno Coxet, qu'on vient d'entendre, viendra au conservatoire de Metz pour les violoncellistes et le département de musique ancienne. Et deux musiciens du Bleu Quintet, qui est un formidable quintet un peu d'improvisation qui viendra faire la clôture, vont faire un atelier d'initiation à l'improvisation, justement, ce qui me semble extrêmement précieux et essentiel maintenant, pour toutes les cordes. Et donc il y aura 10 élèves de Nancy, 10 élèves de Metz qui feront cet atelier-là, et où il y aura une petite restitution en ouverture des concerts du 5 à La Chambre et du 6 à Folchwiller.
Eh ben c'est superbe. Frédéric, quelque chose à ajouter ?
Oui, très rapidement, je voudrais remercier toutes les communes qui vont nous accueillir pendant tout le temps du festival, donc Château-Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze, Tincry, Saint-Avold, Marsal, Metz, La Chambre, Folchwiller. Remercier bien sûr nos partenaires très rapidement, les communautés de communes donc du Saulnois et de Saint-Avold, la CASAS, qui nous soutiennent financièrement. Remercier le département de la Moselle, la région Grand Est. Remercier l'office de tourisme du Saulnois qui a beaucoup participé aussi pour l'élaboration de cette édition. Remercier Bin, notre graphiste. Oui. Merci à Raphaël qui nous a mis Bin entre les mains, qui a fait un super travail. Et puis remercier la Banque Populaire aussi qui participe aussi à ce projet. Et surtout, venez très nombreux, un festival a besoin de public pour exister. Venez voir ces concerts magnifiques et ces magnifiques musiciens, et surtout notre parrain qui est très généreux.
Et le parrain, il a un programme musical pour les mois à venir.
Oui, il y a des choses qui se passent autour de ce festival aussi. J'essaierai d'être le plus présent possible, mais il y avait pas mal de concerts cet été, bien sûr, sur les routes des festivals. Ouais. Et puis là, il y aura. Je vais aussi commencer ma résidence à l'Arsenal de Metz, puisque je suis artiste en résidence à partir de cette saison. Et donc le premier concert sera, ça tombe bien, c'est pas un soir de festival, le 2 octobre, donc c'est un mercredi soir à l'Arsenal, où il y aura un grand projet Forêt, où j'ai convié mon trio, ma pianiste Flore Merlin, et puis Gabriel Lemagadur et Marie Chilem, qui sont les violons 2 et altistes du Quatuor Ébène, pour toute une soirée marathon autour de la musique de chambre de Gabriel Forêt. Et donc ensuite j'aurai le plaisir de faire une tournée au Japon avec mon trio aussi, donc ça j'en suis très très heureux, j'ai bien hâte, mais avant tout on se retrouvera au festival.
Eh bien écoutez, on vous souhaite bonne route à vous Raphaël, Frédéric, bonne route pour le festival.
Merci Dominique.
Et puis aux auditeurs de RCN, on se retrouve mardi prochain. En attendant, on écoute une bossa nova de Louise Bonnefa avec aux percussions Gauthier Capuçon. Rien que ça.
Tout
merci à tous les deux.
Merci.
Merci.